Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Depuis un an, on vit avec. On ne l'a pas vraiment voulu, mais elle est là, la pandémie de Covid. Forcément, ça a bouleversé nos vies, mais ça a aussi bouleversé la manière dont on travaille au quotidien. Nous sommes le 6 avril 2021 et nous entamons notre troisième confinement sous couvre-feu. Un an après, qu'est-ce que le Covid a changé dans nos métiers? C'est la question qu'on va se poser ce soir.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et aujourd'hui, on a un nouveau dans le podcast, c'est Mathieu. Tu peux aller écouter son interview pour mieux le connaître. L'interview est en lien dans la description. Tu peux aussi aller écouter les interviews des autres podcasteurs, puisqu'à chaque fois, je mets les liens dans la description du podcast, ou si tu es sur YouTube, dans la description YouTube. Et c'est le moment de te rappeler que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube et surtout de penser à activer la cloche parce que j'ai commencé à faire quelques lives si tu ne l'as pas remarqué et donc du coup tu seras notifié quand je pourrai lancer les lives. Et ce soir je suis avec Mathieu justement, bonsoir Mathieu. Et avec nous il y a aussi Damir, bonsoir Damir.
Bonsoir, bonjour, bon appétit comme toujours.
Et enfin René, bonsoir René.
Salut Christophe.
Et comme je le disais en introduction, on va parler de ce qu'a changé le Covid dans nos vies, parce que je pense que ça a pas mal bousculé nos vies. Et je vous propose qu'on commence par parler de recrutement. Qui a été le dernier recruté parmi nous? Je pense que c'est pas moi.
Bon, c'était il y a un an et demi. Maintenant, deux ans maintenant, quasiment. Un an et demi, ouais, c'est ça. Un an et demi, deux ans.
Trois ans pour moi, donc sûrement toi, Damien.
Ouais. C'est Damir, ouais, je pense.
Bon. Damir, vu que tu es proche du recrutement, mais que tu as été recruté avant le Covid, est-ce que tu veux nous parler des recrutements qui ont lieu dans ta boîte depuis ou
ouais.
pas l'idée?
Je peux en parler. Donc, pour le coup, je donne un peu de contexte, que je pense que c'est très intéressant dans ce type de moment. Je suis dans une ESN qui s'appelle WeScale, qui est à Paris, qui est une petite ESN d'un peu moins de 50 personnes. Et pour le coup, effectivement, moi, je suis arrivé il y a un an et demi et c'est vrai que là, on a recruté des personnes. Et après, bah, je ne parle pas au nom de cette personne, mais de ce que j'ai vu, c'est pas toujours facile, notamment pour tout ce qui est discussion informelle, intégration, on va dire naturelle. C'est qu'on peut prévoir des points pour dire, tiens, voilà ton compte, voici comment marche tel process. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, en fait, de recréer ce... En fait, cette informalité, entre guillemets, ces discussions un peu sur le pas de la porte, devant la machine à café ou autre, et je pense que c'est le principal problème dans l'intégration, c'est de connaître les gens. Et il y a aussi une autre chose qui, moi, m'a beaucoup perturbé, c'est que, en fait, au final, on parle la majorité du temps au travers de Slack ou des choses, ou parfois des visios, mais c'est plus rare, généralement, c'est quand même du Slack. Donc, au final, les personnes, on a un peu du mal à mettre un visage dessus et à les attacher à une vraie identité. Donc c'est des fois, ça peut paraître des fois un peu abstrait intellectuellement entre guillemets tout ça. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça se gère en prévoyant, en laissant des espaces, mais ça on en reparlera je pense un peu plus tard, d'échanges informels, en essayant de favoriser peut-être des fois aussi les petits groupes où on peut avoir des discussions en visio ou suivi qui soient un peu plus intéressantes, parce que si vous faites une visio avec 50 personnes, ça va discuter entre 3 personnes globalement et beaucoup d'autres personnes vont se taire. Donc je pense que c'est important de faire ces choses-là. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, ça marche dans l'ensemble plutôt bien. Après, c'est clairement pas quelque chose de facile. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que moi, en tout cas, j'ai constaté là-dessus, pour le coup.
Moi, je peux peut-être parler de mon contexte en tant que recruteur. puisqu'on a recruté une alternante l'année dernière et en ce moment on recrute des stagiaires aussi. Et en fait, avant, donc pendant le recrutement de mon alternante, on était entre les deux confinements, on était en plein été. Du coup, on a fait le premier entretien à distance et le deuxième entretien, on l'a fait physique, même si on était à 2 mètres de distance, etc. Et c'était plutôt sympa, sauf que là, avec nos stagiaires, on n'a plus le choix, on les fait tous à distance, et du coup, c'est moins intéressant parce que tu vois pas la enfin, tu vois la personne par visio, mais tu peux pas voir comment elle se comporte parce que tu as un petit cadre. Et puis, comme tu dis, c'est en effet, tu la vois pendant la visio, mais tu peux pas la raccompagner à la porte, discuter un peu de manière informelle et tout. Donc, c'est un peu chaud, je trouve, ce mode de recrutement-là, tout à distance, c'est compliqué.
Alors, de mon côté, je travaille dans une entreprise où on était déjà beaucoup en remote. Je travaille pour Exoscale, donc il y a un cloud provider. On est une petite équipe, mais moi, par exemple, ça fait 3 ans que je suis en télétravail complet. Et on a des gens d'un peu partout. On a des gens, par exemple, des États-Unis, d'Ukraine, de Suède, du Portugal, etc. Donc, on recrutait déjà un peu de cette façon. Par contre, ce qui change, c'est qu'avant, on a quand même des bureaux à Lausanne, on faisait des recrutements à distance, beaucoup de gens travaillaient à distance, mais on faisait pour un nouvel arrivant une semaine en présentiel à Lausanne pour rencontrer un peu les gens. Moi, je faisais des déplacements également régulièrement pour en reparler. Mais, et d'ailleurs, j'ai une personne qui est arrivée dans mon équipe pendant le Covid, pendant le premier confinement. Et en effet, en temps normal, j'aurais fait une semaine avec cette personne en présentiel. Et là, ça s'est pas fait, alors on s'en est sorti, parce que ça fait longtemps qu'on travaille en télétravail, donc on a quand même des assez bons réflexes, on va dire. Mais c'est vrai que c'est moins fun, ça permet de construire moins facilement le lien avec la personne, parce que c'était des semaines plus pour, on va dire, découvrir la personne, la lancer sur un projet, et puis, soyons francs, sortir le soir, bien manger, etc. Donc ça peut pas se faire, mais aujourd'hui on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, et mine de rien, vivement qu'on puisse revenir quand même un peu en présentiel, parce que, comme je l'ai dit, même si ça fait longtemps que je travaille en télétravail, ça fait du bien des fois de voir ses collègues.
Ouais, je peux prendre un peu la suite peut-être. Que dire? Donc moi, ça m'arrive parfois de faire aussi quelques entretiens en vue de recrutement. Là, pour le coup, j'ai pas forcément vu. Enfin voilà, ça se fait à distance et c'est vrai qu'avant on le faisait en présentiel souvent. Mais bon, c'est pas là où c'est le plus gênant. Après, c'est très bizarre parce que sur cette période-là, par exemple, on a parfois des stagiaires qui viennent. Et donc, en l'occurrence, on en a eu un et j'ai l'impression de d'habitude en présentiel et on arrive un peu à discuter, voire échanger un peu, et là ça rend le truc assez difficile. J'ai l'impression qu'il est passé un peu comme ça sans qu'on ait pu trop échanger, donc c'est un peu dommage.
Je rebondis juste pour reprendre un argument qui a été dit et qu'il faut rappeler. C'est vrai que le Covid, il y a un truc qui change aussi par rapport au télétravail dont on parlait dans le précédent épisode, c'est qu'on est dans du remote forcé de chez soi. On a notamment pas mal parlé du fait que le télétravail, c'était cool parce qu'on pouvait travailler de la bibliothèque, de la terrasse de café et tout ça. Et il y a cette partie-là qu'on n'a pas forcément à préciser, entre guillemets, soit localisation.
Eh ben, écoute, on va parler du travail au quotidien. Du coup, je change un petit peu le plan. Mais vu que tu as commencé à parler du télétravail, c'est le moment de vous rappeler qu'on a fait un épisode, ça s'appelle Radio DevOps numéro 10, sur le télétravail. Là, on parlait plus du télétravail choisi et comment s'organiser. Mais là, on va parler du travail au quotidien dans nos vies et du quotidien à distance, finalement, puisque on travaille dans la tech tous les quatre. Et comme on le voit, on est tous chez nous. Alors, je pense que vous travaillez chez vous, au moins à distance. Et qu'est-ce que ça a finalement changé dans votre quotidien, le Covid, avec soit ce travail en local chez vous, soit je ne sais pas. René, si tu veux commencer.
Alors, qu'est-ce que ça a changé Déjà, ouais, les trajets, clairement. Moi, je faisais pas mal de vélo pour aller au boulot. Et donc, du coup, j'en fais beaucoup moins. Donc voilà, faut que je trouve d'autres moyens de un peu me dépenser. Je pense que la notion de télétravail forcé, elle est assez, comment dire, c'est Je pense qu'il faut pas comparer avec des gens qui en faisaient déjà parce que, ben, notamment en termes de moi, par exemple, dans mon cas, j'ai pas forcément un espace, un bureau bien dédié et tout ça. Mon espace de télétravail, il était pas forcément au top. Et du coup, ben, voilà, ça c'est un peu problématique. Du coup, j'ai dû un petit peu revoir des choses, aménager. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à pas prendre cette expérience-là. Même si elle dure un peu, je pense que c'est différent du vrai télétravail quand on l'a choisi et où on a pu bien se préparer, avoir une pièce dédiée, etc. Moi, c'est voilà, ça m'est tombé un peu sur la tête, même si je faisais déjà du travail à distance assez régulièrement. Voilà, je n'étais pas forcément préparé à ce que ça dure autant. Et voilà. Le côté positif, c'est que je me suis toujours posé la question si c'est quelque chose que je vivrais bien ou pas. Et pour le coup, ben moi, ça se passe plutôt bien. Donc, je confirme que c'est dans mon cas, voilà, ça se c'est quelque chose que j'arriverai à tenir sur un assez long terme. Voilà, je vais laisser un peu la parole.
Je vais prendre la parole parce que tu parles de le vivre assez bien. Alors, nous, chez l'Hydra, on est en remote first. Ça veut dire qu'on est déjà pensé comme étant à travailler à distance, puisque mon associé, il est à Rennes, moi, je suis à Saint-Étienne. Donc, déjà, de base, on est à distance. Par contre, mes alternants, ils sont à Saint-Étienne. Et du coup, habituellement, je faisais 2 semaines chez moi, dans mon bureau, puisque là, c'est mon bureau professionnel, dans mon appartement. En effet, et 2 semaines dans un espace de coworking qui n'était pas très loin, puisque c'était à 20 minutes de tram de chez moi. Et ben en fait, j'ai beau être introverti et aimer mon confort personnel et pas forcément être, enfin, je suis un petit peu un ours, ça me manque en fait de pas aller dans l'espace de coworking et de pas avoir de collègues de boulot, même si on fait une visio tous les matins. J'aimais bien me promener et aller justement à mon espace de coworking. Et du coup, je le vis de moins en moins bien, surtout que comme on se tape en plus le couvre-feu, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que la journée, on travaille à distance chez soi, et puis le soir, il est vite 18h, 19h, excusez-moi, 19h, il est vite 19h, et ah, on ne peut pas sortir pour aller vaquer à nos occupations. Donc moi, je le vis un peu bizarrement, ce Covid. C'est-à-dire, le télétravail, j'aime bien, mais en effet, forcé, j'aime beaucoup moins.
Après, je suis d'accord. Moi, je vis moins bien le couvre-feu, en fait. Justement, ça, je trouve que ça coupe un peu. Souvent, le soir, moi, je vais un peu prendre l'air, etc. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué que. Voilà, je trouve ça plus difficile que à la limite, le premier confinement. Après, moi, j'ai toujours un peu de, par contre, de scrupules. Je pense on reste quand même privilégié par rapport à d'autres personnes, donc j'ai pas trop envie de me plaindre par rapport à ça. Et un autre phénomène, je pense, qui est important, ça dépend aussi beaucoup de la situation des personnes. Je pense que si on a une famille, c'est quand même plus facile, on voit quand même des gens. Moi, j'ai des collègues qui sont plus jeunes, qui sont parfois célibataires seuls, et c'est vrai que pour eux, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre.
Moi, en effet, comme j'ai dit au début, ça fait 3 ans que je suis en télétravail, mais par choix. Et finalement, j'avais déjà le setup et ma pièce dédiée, etc. Donc, ça s'est plutôt bien passé pour moi et pour mon entreprise. Mais c'est vrai que c'est plus les à côté qui sont difficiles, je suis d'accord avec vous. Le télétravail, c'est bien, mais je voyais aussi des gens à l'extérieur du travail, dans des associations, dans des sorties, etc. Et c'est ça qui pèse un peu, c'est que, en effet, c'est le combo télétravail plus. Plus il n'y a rien à côté finalement. Finalement, c'est plus ça le problème aujourd'hui pour moi même. Pas de famille, pas d'amis, etc. Enfin, c'est ça qui est compliqué. On sort un peu de l'informatique, mais c'est vrai que moi j'ai connu le télétravail avant et pendant le Covid et c'est pas la même chose. C'est clairement c'est du télétravail choisi. Quand ça se passe bien avec du bon matériel, une bonne organisation, je pense pas que c'est du télétravail imposé dans une entreprise où ça s'est fait très rapidement et sans aucun contact extérieur parce qu'il y a bah, des confinements, des couvre-feux, etc.
Mais effectivement, il y a c'est pas facile. On parlait des situations familiales. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace entre guillemets chez elles et qui ont parfois bah, des enfants, ils sont en couple, etc. Et c'est pas simple. Moi, je vois, j'ai de la chance. On est avec ma compagne quand même assez bien lotis. On est tous les deux en full remote et on a notre petit finalement open space à deux, du moins à trois avec notre chat qui est aussi confiné avec nous. Mais du coup, on a notre petit, on va dire, notre petit rythme de vie là-dessus. Donc ça se passe. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas ses chances de confort, quoi. Et, comme on le disait, on parlait rien que d'avoir un espace. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment sur un coin de table de salon ou autre, et ça, c'est pas facile.
Ah, je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui n'ont pas fait l'effort d'acheter le matériel nécessaire à leurs employés. Et tu l'as dit, hein, il y a des gens qui travaillent sans chaise de bureau, etc. Alors je sais que ça peut être compliqué dans des petits appartements, c'est sûr, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi un problème de place et de la taille des appartements en ville aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup d'entreprises ont également fait assez peu d'efforts sur l'équipement de leurs salariés et peut-être que ça aurait mérité un peu plus d'efforts sur ça. Enfin, moi j'ai des exemples, je le vois dans mon entourage, où c'était un peu limite.
Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va parler du matériel okay. juste après. On va un petit peu avancer sur le travail au quotidien, si ça ne vous ennuie pas. Et justement, tout à l'heure, je parlais des apprentis et de l'accueil des stagiaires. René, il en a parlé brièvement, mais il faut savoir qu'en théorie, un stagiaire, il est sous la tutelle physique de son tuteur. Et c'est illégal de le faire travailler à distance. Évidemment, vu le contexte, on prend des passe-droits et on s'arrange avec l'école et le stagiaire, tout le monde est d'accord. Mais je sens que c'est quand même plus compliqué d'accompagner un stagiaire quand il est loin et à distance que quand il est avec nous physiquement et qu'il peut nous déranger ou que même il peut déranger ses collègues autour de lui. Là, même si nous on est équipé, on a un chat et tout. Ça reste quand même compliqué. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, si vous accueillez des stagiaires ou des alternants. Ou même des jeunes, des juniors.
C'est pas facile, en fait. Effectivement, je t'ai dit, c'est un peu exceptionnel et ça n'avait pas été prévu de base. Donc, il faut s'arranger, même si généralement, tout le monde est de bonne volonté là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple, en fait, de faire le suivi. Surtout, je dirais, de voir la personne, elle n'est pas perdue. Parce que quand on est en physique, on voit quand la personne a totalement décroché, elle est perdue. On le voit très bien. Et je vais prendre un parallèle. Moi, j'ai donné cours du coup pendant le Covid. Donc, j'ai donné cours en physique pendant le Covid et en distanciel. Et en distanciel, c'est extrêmement dur de donner cours, sachant que beaucoup d'étudiants ne mettaient pas la cam parce que certains, tout simplement, étaient dans le salon avec leurs parents derrière, etc. Ce que j'acceptais tout à fait. Donc, généralement, il y avait peu qui mettaient la caméra en permanence. Donc au final, c'est très dur en fait quand on forme quelqu'un de voir si dans son regard il y a beaucoup de choses comme ça dont on ne se rend pas compte, de voir si la personne elle suit, si elle a besoin qu'on répète, peut-être qu'on explique autrement. Et ça, c'est à mon sens ce que j'ai trouvé de plus compliqué honnêtement.
Alors moi j'ai pas eu le cas là d'avoir des nouveaux alternants mais par contre je pense que clairement ce qu'on a vu c'est que c'est pas facile pour tout le monde, je pense. Enfin, pas tout le monde est fait pour travailler en télétravail, et notamment, je pense que ça demande. Enfin, pour les gens autonomes, ça pose pas trop de problèmes, mais quand on démarre, on est moins autonome, etc. Je pense que c'est plus dur, et notamment, je pense à certains collègues qui ont eu aussi un peu du mal à travailler à la maison, à pas se faire distraire, à se concentrer. Et on a aussi eu du mal à des fois à savoir s'ils étaient bloqués, pas bloqués. Et voilà, ça c'est vrai que c'était parfois un peu compliqué. Et voilà, c'est des difficultés en plus et qu'il faut pas, je pense, pas négliger. Et pour moi, enfin, ça peut arriver de ne pas être à l'aise à travailler en télétravail et il faut accepter ça, quoi.
Ouais, en effet, moi je demande régulièrement à mes alternants si tout va bien, si tout se passe bien et s'ils n'ont pas de problème sur le chat. Et puis s'ils ont besoin, on fait une visio comme ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la nouvelle alternante qu'on vient d'accueillir parce qu'elle vient d'avoir 18 ans, presque 19. Elle commence tout juste en fait à travailler. Elle a travaillé un peu en été, mais le monde du travail, elle ne connaît pas encore. Et du coup, elle arrive dans le monde du travail avec le Covid à distance en remote. Je pense que c'est dur pour ce genre de personne justement d'intégrer une entreprise et de comprendre ce que c'est. Alors, elle a de la chance parce que finalement c'est une assistante de gestion, donc c'est une assistante de direction, donc elle est au milieu de tout ça, donc elle est forcément au milieu de nous tous. Mais si elle était tech dans un coin, j'ose pas imaginer comment ça pourrait se passer au quotidien pour elle.
Je suis d'accord que ça peut être compliqué.
C'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect, c'est aussi d'avoir de la visibilité sur l'avenir. Là tu parlais concrètement dans les sociétés. Je pense qu'il y a aussi un gros truc aussi au quotidien, c'est que un peu moins maintenant la période s'est stabilisée, mais si vous vous rappelez tout cas quand on est en société, pour le début du Covid, les débuts quand il y a commencé les confinements, etc., c'était un peu pas bordélique, mais disons que c'était on n'était pas... On n'était pas serein en tant que personne, mais en tout cas, moi, je ne l'étais pas, parce que c'était vraiment l'inconnu. On n'avait jamais connu de confinement de notre vie, on n'avait jamais connu de problématiques globales comme ça, et on a eu pas mal de doutes. En tout cas, moi, perso, j'ai eu pas mal de doutes et on va dire d'inconnus. Et là-dessus, je pense que c'était important, et pour le coup, dans mon entreprise, ça a plutôt été bien géré de faire des points sur quelle est la situation réelle, comment ça se passe, comment on fait si on a besoin, par exemple, au premier confinement aussi, on a besoin de garder nos enfants, etc. Et pour ça, c'est important que l'entreprise aussi gère une communication entre guillemets de crise et de suivi, pour voir que tout le monde s'accommode plus ou moins bien du télétravail, éviter que des gens partent en burn-out ou autre, et aussi pouvoir un peu rassurer les gens en disant « mais vous inquiétez pas, ça va, on fait ce qu'il faut, etc. » Ça peut paraître con, mais nous, je sais qu'on avait un point du coup avec notre directeur qui, tous les deux semaines, nous faisait un point et nous disait ça se passe en manière très transparente. Pour ça, on ne sait pas encore. Ça, on sait. Ça, ça a été vu avec les arrêtés qui ont été faits par l'État, etc. Mais en tout cas, c'était rassurant d'avoir des feedbacks là-dessus et d'avoir une vision à long terme et de voir que non, ça partait pas totalement en live. Il y avait un suivi quand même qui se faisait. Il y avait une stratégie qui était là. Donc ça, je pense que c'était aussi quelque chose qu'on oublie un peu, mais c'est important de la part de l'entreprise dans ces moments-là de rassurer, de bien communiquer surtout.
Je suis d'accord et je rajouterais que c'est important que l'entreprise soit également tolérante, parce que tu parlais d'enfants à la maison et moi je gère une équipe et un collègue qui me dit demain matin bon voilà, je dois garder mes enfants, je dis il n'y a aucun problème quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment important que tout le monde fasse l'effort côté entreprise pour que ça se passe bien, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont des grosses contraintes personnelles qui font que elles seront peut-être un peu moins présentes, pas aux mêmes horaires, etc. Et c'est très important d'avoir ça en tête, je pense, dans les entreprises et de dire et de vraiment amener de la flexibilité. Pas que les gens soient les gens sont déjà assez stressés comme ça avec le Covid, etc. Il ne faut pas rajouter le stress supplémentaire de il faut être là à 9h, partir à 18h et être super strict sur les horaires et sur la façon de travailler. Non, il faut vraiment de la flexibilité à ce moment-là, je pense.
Oui. Alors, de la flexibilité, moi je veux bien, mais nous, notre stand-up, il est à 9h pile, 9h pétante. Et justement, tu parles de flexibilité, ça peut marcher, mais dans mon cas, en l'occurrence, avec des jeunes et des alternants, je leur demande d'être là à 9h au stand-up, tout le monde est là, parce que moi, ça me rassure du fait qu'il n'aurait rien arrivé. Parce que comme ils sont chez eux, et qu'ils ne voient pas grand monde, comme nous, on s'assure mutuellement que tout le monde va bien. Alors, moi, j'ai un truc sur ce que tu disais, Damir. Je suis pas d'accord sur la visibilité sur l'avenir. Je trouve qu'on n'en a pas du tout. Et on s'est encore collectivement, quand je parle de collectivement, c'est au niveau national et international, on s'est encore collectivement pas pris, on n'a pas pris en main l'enjeu en fait du Covid et le fait que on peut vivre avec une pandémie ou on va en avoir d'autres. Là, on est en train d'attendre, en fait, naïvement, la pandémie, elle va passer. Et pour moi, elle passera pas. Et puis même si celle-là, elle passe, il y en aura d'autres. Pour moi, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce qu'on s'organise en société avec, pas la société, l'entreprise, mais la société entre nous. Et puis comment est-ce qu'on vit en entreprise, est-ce qu'on met en place des choses qui vont être pérennes dans le temps en entreprise. Ça, c'est des enjeux qu'il me semble on n'a pas encore vraiment, et pourtant ça fait un an, on n'est pas allé. Alors, nous, on sait qu'à l'avenir, on va aller beaucoup plus vers ça, mais est-ce que les autres entreprises prennent ça en compte, ou est-ce que la société qu'on forme tous ensemble, est-ce qu'on va s'organiser autrement?
T'extrapoles peut-être juste un peu beaucoup mes propos. Hein. Moi, je parlais vraiment de l'avenir plus au sens société. Il y a des entreprises qui ont coulé, il y a des entreprises qui ont fait des licenciements massifs, notamment des entreprises qui ont mis fin à des périodes d'essai. Je sais honnêtement que c'est pas le genre de ma boîte, mais c'est toujours rassurant quand ils ont dit non, il y aura pas d'arrêt là-dessus, les périodes d'essai, il y a pas de souci, ça va continuer. La boîte, niveau financier, on peut largement tenir, etc. Donc avoir cette transparence et cette communication, c'est important. Je parle pas de la vision d'avenir sur la société, parce que dans tous les cas, personne ne pouvait dire il y a un an, dire donc ça va se passer comme ça, on a un vaccin qui est prévu à tel moment, qui va être produit en tel nombre, à telle quantité. On pouvait pas prévoir tout ça, pour le coup, donc là-dessus, je suis d'accord. Mais que l'entreprise rassure pour dire aux gens, c'est peut-être la merde niveau santé, c'est peut-être la merde niveau de plein de choses, mais nous, vous inquiétez pas, ça se passe bien, on a du suivi, etc. C'est aussi rassurant pour la personne, et mine de rien, ça permet aussi à la personne de ne pas partir aussi des fois dans une déprime ou autre, parce qu'elle se dit, bon, au moins ça, c'est un point, entre guillemets, que je me déleste, parce que mon entreprise m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important pour beaucoup dans une entreprise. Mais je ne parlais pas de la société au sens large du terme, effectivement.
J'avais peut-être juste un petit point à rajouter, faut pas oublier, enfin pas, parce que c'est moi c'est quelque chose que je vis en ce moment, c'est que voilà, j'ai un collègue qui a attrapé le Covid, et de manière plutôt sévère, très sévère. Et du coup, voilà, c'est aussi une ressource en moins. Voilà, il y a aussi des impacts avec les gens qui tombent malades. Et faut pas l'oublier, parce que pour eux déjà, c'est loin d'être rigolo. Et mais aussi parfois, il faut faire avec des absences qui n'étaient pas forcément pas prévues. Et c'est pas toujours évident.
C'est vrai, j'ai pas eu trop le cas pour le coup, mais c'est vrai que c'est aussi important. Je pense qu'on peut rebondir aussi un peu, extrapoler. Sur un dernier point, sur le travail au quotidien, qui est, moi je prends mon exemple qui est aussi le cas de Christophe, qui est un peu particulier, qui est le fait d'être consultant. Donc moi pour une ESN, Christophe dans une autre structure. Pour le coup, l'idée derrière ça, c'est que c'est plus complexe, dans le sens où quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez en interne, c'est votre entreprise qui va gérer le télétravail, des choses comme ça. Quand vous êtes en consultant, c'est un peu plus compliqué. Vous devez potentiellement changer régulièrement d'entreprise. Donc du coup, c'est-à-dire refaire un contexte, etc. Vous êtes sur des choses très précises. En tout cas, moi, j'étais sur des missions assez précises, sur des choses parfois un peu historiques, mais en tout cas qui nécessitaient de comprendre vraiment un écosystème et des choses comme ça. Et c'est pas toujours simple, notamment, comme je disais, ça, je pense, c'est ce qui m'a le plus choqué dans toute cette histoire, c'est l'informel. Et je me rends compte qu'en entreprise, au final, quand on arrive en tant que consultant, l'informel, c'est quelque chose qui est ultra important. Je ne m'en rendais pas compte. Mais des fois, de discuter avec quelqu'un qui était avant dans l'équipe et l'équipe et qui dit « Au fait, il y a ça, ça n'a jamais été mis à jour, je ne sais pas si tu en as parlé, etc. » En gros, si j'exagère un peu avec une image des cadavres dans le placard, c'est beaucoup plus simple de les trouver quand il y a ce type de discussion, je trouve. Et là-dessus, c'était un peu plus compliqué, même si honnêtement, être consultant du coup en remote, ça se fait très bien. Moi, j'ai eu de la chance, en tout cas, j'ai eu, que ce soit mon ESN ou que ce soit les clients que mon ESN a sélectionnés, ils ont bien géré la com et du coup, on n'a pas eu de présentiel forcé depuis le début du Covid. J'ai eu juste 2-3 jours, mais on en parlera après pour le matériel. Mais à part ça, là-dessus, j'ai eu plutôt de la chance et ça se fait très bien d'être consultant remote. C'est un rythme à prendre, c'est une manière de communiquer aussi à prendre, de bien communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on a besoin, peut-être si on a des doutes aussi, le communiquer clairement. C'est pas la même chose, on va dire. Pareil pour reporting et choses comme ça, mais j'ai pas eu de soucis à le faire en tout cas. Donc c'était plutôt cool. Je sais pas toi, Christophe, quel a été un peu ton ressenti là-dessus?
Moi, mon ressenti il est un peu différent parce que dès que j'ai commencé en freelance il y a 5-6 ans, tout de suite j'ai fait du 100% remote en fait. Je ne cherchais que des clients en remote, même s'ils sont à côté de chez moi. Et de plus en plus maintenant, comme je fais de moins en moins de prestations, c'est pas des prestations 5 jours semaine, donc du coup, de fait, ça exclut le remote parce que si je suis à 2 jours semaine pour un client, il comprend bien que je vais pas aller chez lui. Et donc, j'ai dû m'adapter il y a plusieurs années au travail en remote. Comment est-ce qu'on faisait? Et en fait, je pense qu'en effet, comme tu le dis, ça dépend de ce qu'on fait pour les clients. Moi, j'interviens sur des points hyper précis et plus maintenant sur de la R&D que sur de l'opérationnel au quotidien. Donc, je pense que je peux être un peu loin des équipes, même si il faut absolument que je discute avec les équipes et si j'ai des doutes, il faut que je leur demande et donc on organise des ateliers, soit en virtuel, soit des fois on se voit. Mais là, typiquement pour le dernier client que j'ai, on s'est vu le premier jour et puis c'est tout. Et justement, on va parler de matos, parce que ce client-là, il voulait me filer un portable en Windows. Je lui ai fait « Non, non, je veux pas de ton portable Windows, je garde mon PC Linux. » Et puis voilà. Donc le premier jour, j'ai pas eu de portable, lui, il m'en file pas un, et puis moi, je me débrouille avec mon Windows. Mais vous, comment ça se passe avec justement la gestion du matériel physique? Je crois que l'un d'entre vous voulait en parler. Alors, Damir, je te laisse commencer.
Ouais, bah du coup, moi de mon côté, alors c'est vrai que là, pendant le confinement, pour vous donner l'info, j'ai fait 4 ou 5 clients différents. J'étais plutôt sur des missions assez précises et un peu pareil, vraiment d'expertise, voire même de. Moi, je ne qualifierais pas ça d'R&D, mais vraiment de vision à long terme et de mise en place de nouvelles choses. Donc pour le coup, c'était des missions relativement courtes, sur 1 mois, 2 mois. Mais c'était des. Mais ça s'est plutôt bien fait. Les fois où, en général, j'essaie de négocier pour garder mon matériel, parce que j'aime pas multiplier le nombre de PC. Parce que de un, bah, gérer les transferts d'un fichier à l'autre, etc., c'est embêtant. Moi, je suis déjà ma machine qui est bien configurée avec l'OS que je veux, etc. Donc autant rester là-dessus. Je gère très bien le multi-environnement. Et pour le dernier truc, c'est tout simplement pour une question peut-être un peu écologique, quoi. Ça me sert à rien d'avoir encore un autre PC qui va traîner, etc. Moi, ça me fait chier d'avoir 200 PC pour la même chose. Donc là-dessus, bah, c'est toujours un petit geste en plus. Et j'ai quand même dû à me rendre 2 ou 3 fois pour du matériel, parce que j'avais un client où l'écosystème, c'était du macOS. Donc du coup, j'ai dû aller sur macOS. Et j'ai dû me rendre du coup en début de mission. En début de mission là-bas et en fin de mission pour rendre le matériel, il y a un mot milieu parce que j'avais besoin de récupérer quelque chose, j'avais laissé au bureau. Et bah, ça se faisait très bien. Et je sais que sinon, j'avais eu des clients qui m'ont. Bah là, je change de client cette semaine. Et mon client m'avait proposé bah, de m'envoyer en livraison rapide, du coup par DHL ou autre, du moins un transporteur quelconque, de m'envoyer directement en PC pour pas que j'aie à me déplacer. La plupart de mes clients, en tout cas. Surtout dans les moments un peu compliqués, l'été dernier c'était un peu plus calme, m'avait proposé de faire un envoi direct pour gérer le matériel et je pense que bah, c'est une alternative qui marche hein, pour le coup et qui est assez pratique comme alternative.
Alors justement, je vais en parler parce que moi j'ai un PC d'un autre de mes clients depuis des années parce que je travaille avec lui, mais lui il a un VPN super précis, son PC, bref, j'utilise jamais son PC, mais du coup, quand on a des clients comme ça qui nous fournissent des PC et qu'on en a plusieurs, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi et pourquoi ils nous laissent pas utiliser nos propres matériels. Quand on est consultant, hein, bien sûr, indépendant, et pourquoi on a autant de VPN différents? Est-ce que toi, Damir, tu le sais ou, enfin, je m'en doute, mais voilà, je suis toujours assez surpris que les clients n'utilisent pas des solutions VPN plutôt ouvertes et qui vont vers des solutions.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Propriétaire.
Bah, alors moi j'ai fait pas mal de clients, dont des gros clients bancaires français. Bah, 90% du temps, c'est la PSSI. Il y a aussi beaucoup de clients qui le proposent par défaut. Moi j'ai eu beaucoup le cas de clients, ils me disent bah, pour le PC, donne-moi ton adresse, on te l'envoie. Bah, le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire j'ai déjà un PC, moi ça me va de retravailler dessus, c'est OK pour vous. Et 80% du temps, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, les clients vont répondre et vont dire OK ou vont me demander plus d'informations. Mais souvent, les clients sont pas fermés à ça, faut pas hésiter à leur demander en fait. C'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps. Mais en fait, par défaut, ils le font pourquoi? Parce que pour eux, c'est plus simple logistiquement de dire on a un consultant, on lui envoie un PC, on est sûr que le PC sera conforme à la PSSI, donc à la politique de sécurité de système d'information de mon entreprise. Donc le disque sera chiffré avec minimum ça, il y aura ça, il y aura ça. Donc il y aura tout ça de paramétré entre guillemets de fait, donc nous on est sûr. Tandis que dans le cas inverse, il va falloir que tu fasses une déclaration sur l'honneur que ton PC respecte des politiques de sécurité. Moi, ce qui est le cas, hein, j'ai un PC, mon PC Pro, je l'ai durci bien au-delà des règles en vigueur dans les boîtes dans lesquelles je travaille. Mais souvent, c'est cette PSSI qui bloque et on peut le régler avec des déclarations sur honneur. Après, ça dépend aussi bah, du client. Les grosses banques, c'est généralement pas possible, tout simplement. Mais ouais, c'est un gros souci, entre guillemets, chez certains clients.
Ouais, je crois qu'on a en plus eu le même client, cette grosse banque, dont
ah non, j'en ai eu deux. Alors, on pense, il y a effectivement celle-ci, mais il y en a une deuxième aussi.
Ah ouais, d'accord. Mais moi, ce qui me chagrine toujours, c'est l'accès au VPN. Mais bon, on n'en parlera pas. Mais,
ça digresse un petit peu.
Ça digresse un petit peu. On va rester sur le matos et je crois que Mathieu voulait nous parler un petit peu.
C'est un bon sujet à aborder pour la prochaine fois.
Ouais, on parlera de VPN pour les prochains épisodes. Je le note.
Donc en effet, dans le cloud, finalement, la gestion du matériel physique est également importante parce que le cloud, ça reste des machines. C'est vrai qu'il y avait un peu de crainte au début sur l'accès au data center, les commandes, qu'il y avait aussi du retard ou des choses comme ça de matériel physique, qui est quand même un gros bout d'un cloud provider. Et il y avait également beaucoup de témoignages de gens qui s'interrogeaient sur ça sur Twitter, qui disaient comment on va accéder à nos salles dans les data centers, est-ce que ça va pas poser trop de problèmes au niveau, à cause des restrictions, etc. Est-ce que ce sera même possible? Parce qu'en fait, même certains providers de data centers ne permettaient plus à ce qu'on aille sur site. Il fallait forcément passer par des personnes de l'entreprise qui étaient sur site. On ne pouvait plus y aller, nous, physiquement. Finalement, ça s'est bien passé, du moins dans notre cas, et j'ai l'impression que dans mon entourage aussi, du moins, dans mes contacts qui travaillent avec du matériel physique, il y a eu peut-être un peu de retard sur certaines commandes ou autres, mais globalement, tout s'est bien passé, et maintenant, ça tourne bien. Donc je pense que maintenant, les data centers se sont habitués à travailler comme ça, et j'ai pas trop de crainte sur ça sur l'avenir, mais c'est vrai qu'au début, du moins de la pandémie, c'était un peu une question qui, je trouve, se posait un peu. Parce que voilà, l'informatique, ça reste derrière des serveurs physiques, et ça reste très important, finalement, une partie très importante de notre métier.
Ça peut tenir qu'à un bateau qui est coincé dans un canal.
Exactement, exactement. Et surtout qu'il y a des pénuries. Il y a régulièrement, je ne sais pas si c'est lié au Covid ou pas, mais il y a régulièrement en ce moment des pénuries de matos. Recevoir de la RAM, recevoir des trucs, c'est compliqué de recevoir du matos, j'ai l'impression, en ce moment.
Il y a des pénuries de micro-composants sur certains éléments qui ont perturbé notamment les chaînes de production des nouvelles consoles, des nouvelles cartes graphiques et aussi un peu par rebond d'autres choses, notamment dans l'automobile pour le coup.
Ouais, c'est assez visible. Et bon, ça va se résorber, bien sûr, je pense, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent.
Après, moi, je voulais juste échanger, ça m'a fait penser à quelque chose. Dans ce qui a changé, je vais pas parler du matériel perso, mais c'est vrai que il y a des clients qui ont demandé à se créer un petit peu des fois des infras un peu de secours. Donc moi j'ai eu le cas où pour des raisons évidentes, ce client-là se focalisait sur la production et nous ce qu'on faisait c'était pas forcément on développe une application pour lui, donc on est plutôt sur du développement. Et on a eu des demandes pour sécuriser un petit peu ces environnements-là et monter des choses parfois sur le cloud ou ailleurs. Et je pense que ça a été peut-être des fois un peu la difficulté pour certaines boîtes de devoir monter des choses des fois un peu à la va-vite pour pallier certaines difficultés, quoi.
En parlant de matériel et pour clôturer un peu le sujet, j'aimerais bien qu'on parle de notre environnement de travail. Est-ce que justement vos entreprises ont suivi en vous achetant ou en vous dotant d'une enveloppe pour adapter votre lieu d'habitation pour qu'il devienne votre lieu de travail?
Alors pour le coup, moi de mon côté, il n'y a pas eu d'enveloppe. Moi j'avoue que j'avais déjà pas mal aménagé entre guillemets. Mon chez moi, donc j'étais plutôt tranquille là-dessus, mais il n'y a pas eu spécialement d'enveloppe. Après, j'ai eu au cas par cas possibilité d'envoi d'écran et des choses comme ça, notamment même des clients qui m'ont proposé si j'ai besoin de clients ou d'écran ou d'autres choses. Après, j'avais déjà pas mal investi honnêtement au premier confinement où je m'étais dit, j'étais parti sur le postulat de ça va durer. J'ai eu plutôt le nez, je pense, et j'avais changé avec ma compagne du coup le bureau, les chaises, etc. Donc pour le coup. Plutôt un bon investissement au final.
Alors de mon côté, j'avais déjà beaucoup de matériel, mais dans tous les cas, moi j'ai 50% des frais de mon matériel qui est pris en charge, plus bien sûr les trucs classiques du type abonnement internet et téléphone. Mais en effet, c'est des choses que je peux faire passer en note de frais, mais parce que je suis sous un certain statut. Donc j'ai 50% en effet de mes frais d'achat de matériel qui sont déduits, mais depuis plusieurs années. C'est pas lié au Covid pour le coup.
Bah, c'est un reliquat de la loi travail, ça. La loi travail, à la base, obligée, quand on faisait du remote, à rembourser notamment tout ce qui était 50% des forfaits internet, etc. Et ça a été retiré depuis les simplifications, entre guillemets, de la loi travail.
Moi, je l'ai en tout cas toujours, mes écrans, tout,
oui, bah, souvent, tout comme ça. Souvent, les entreprises l'ont gardé. Parce que bah, par habitude, en fait, elles ont dit on va pas l'enlever. Mais les entreprises qui n'avaient pas ça en, le télétravail en place à ce moment-là l'ont pas mis en place derrière.
Ouais, c'est vrai.
Et dans mon cas, non, pas d'enveloppe non plus, mais par contre, il n'y avait pas de difficulté pour récupérer un écran aussi au bureau ou une chaise. Et manifestement, là, alors, j'ai pas lu le mail complètement, mais on risque d'avoir un dédommagement pour les gens qui ont travaillé un peu en télétravail, de l'ordre de, enfin, une petite prime par jour de télétravail. Voilà.
Ok, du coup, pour vraiment clôturer cet aspect matos, il y a aussi la fourniture de masques qui, normalement, est à la charge de l'entreprise, a priori. Donc ça reste valable. Mais on va parler de choses un petit peu plus joyeuses. On va parler des rencontres, puisque les rencontres, on sait que c'est dur en ce moment. Donc moi, je vais commencer par parler de mon cas. C'est, on est en coopérative d'entrepreneurs, donc ça veut dire comme on est une coopérative, on a des assemblées générales toutes les années auxquelles on se retrouve, et on est plus de 150 associés, donc on se retrouve à beaucoup, et bah là c'est plus le cas. Alors, en l'occurrence, on fait nos assemblées générales et nos rencontres à distance. On a aussi nos rencontres plusieurs fois par trimestre aussi, que moi je fais plus parce que j'ai plus le temps. Et puis parce que la distance, moi j'aimais bien aller les voir mes collègues à Lyon. Bah là, à distance, bah je prends pas le temps parce que la flemme, et puis parce que je les vois pas. Donc du coup, je peux pas les voir, les discuter avec eux, les toucher. Je peux pas manger avec eux. Enfin, vous comprenez quoi. C'est dur. Donc plus de rencontres pour moi. Je vois même plus mon associé. On se voyait tous les 6 mois physiquement. Bah là, c'est fini. Depuis un an, on s'est pas vu. Donc je suis un peu tristounet pour ça.
De même de mon côté. Moi, comme je le dis, je travaille depuis longtemps en télétravail, mais j'allais tous les mois et demi voir mes collègues en Suisse. Alors, ce n'est pas tous mes collègues, c'était un noyau, on va dire un noyau dur de collègues qui travaillent depuis Lausanne, où on a nos bureaux. J'y allais assez régulièrement, en effet, plus pour parler avec les gens, sortir, sociabiliser. Et on faisait également 2 semaines par an. Donc une fois en hiver, une fois en été, des off-site, on rassemblait toute la boîte, parce qu'on est vraiment de partout dans le monde. Si je prends l'exemple de mon équipe, on est 5 personnes, il y a moi depuis la France, 1 personne aux États-Unis, 1 en Ukraine, 1 en Suède et 1 au Portugal. Donc c'est vrai qu'on se croisait très rarement en Suisse. Donc on faisait quand même 2 semaines avec toute la boîte à l'étranger, bah ça c'est fini aussi. Et c'est vrai que ça manque beaucoup. J'ai des collègues qui sont là depuis plus d'un an, un an et demi, que j'ai encore jamais vu physiquement. Et c'est vrai que c'est pas pareil, parce que même en étant en télétravail depuis longtemps, j'adore aller voir mes collègues, boire des coups avec eux, discuter même de sujets techniques un peu comme ça physiquement. Enfin, c'était vraiment des semaines ou même des que j'aimais bien, que ce soit les off-site ou en Suisse. Et c'est vrai que c'est terminé, donc vivement que ça revienne. J'espère qu'on pourra recommencer à voyager un petit peu entre pays vers l'automne. Alors je sais pas, je ferai pas de prévision parce que c'est très dur à dire, mais j'espère que ça ira mieux, parce qu'en effet ça manque beaucoup.
Ouais, pour le coup, nous c'est un peu pareil. Tous les mois on a une journée, on est hors clientèle, donc on ne travaille pas pour un client, on est en interne, et on fait une journée un peu de discussion, de rencontres, d'échanges. On discute un peu de tout et de rien, on présente un peu des règles sur chacun de nos missions et des choses comme ça, histoire d'échanger, de rencontrer les gens et surtout d'apprendre des choses d'autres personnes qui ont fait d'autres missions. Donc c'est plutôt cool, on l'a maintenu à distance, mais c'est vrai que c'est pas la même chose en fait qu'à distance. On n'a pas cet effet un peu de groupe, de discussion à gauche à droite, donc pour le coup là-dessus c'est plus compliqué. Après, comme j'aime bien dire, je pense qu'il faut vraiment, et comme je disais un peu tout à l'heure, faut arriver à créer des espaces et des moments d'échange qui soient informels. Donc, on ne parle pas forcément que du boulot, on parle d'autres choses, etc. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Moi, je sais que nous, on a mis en place très rapidement dans ma boîte C'était le lendemain du confinement, le lendemain de l'annonce du confinement. Un channel Slack où, en fait, à tout moment, vous pouvez venir dans le channel, vous faites un petit ping à tout le monde et vous dites je vais aller boire un café, est-ce que quelqu'un veut qu'on discute et quelque chose. Et on se lance un petit call et les gens peuvent rejoindre et partir quand ils veulent. Et pour discuter, tout et de rien, et ça marche plutôt bien. Et en vrai, c'est une des choses qui m'aide le plus à garder contact au final avec mes collègues. Et quand je dis contact, c'est vraiment un vrai contact et pas juste répondre de manière asynchrone sur Slack. Et c'est, je pense, un des trucs qui m'a beaucoup aidé pendant le confinement. J'ai pas trop senti non plus de difficultés en fait là-dessus. Donc je pense que c'est une bonne idée de s'organiser des choses comme ça, vraiment informelles et flexibles là-dessus. Je sais pas si vous avez fait des choses similaires de ce point de vue-là.
Un petit peu, nous on a une espèce de pause café. On a gardé un peu la pause café mais à distance quoi. Voilà, mais ça permet de discuter. Alors des fois comment dire, on est mal éduqué parce qu'on parle malgré tout un petit peu de boulot, mais voilà, la plupart du temps ça part sur d'autres sujets et c'est vrai que ça fait une petite soupape pour parler d'autres choses quoi.
Mais c'est vrai que la pause café, moi je l'ai toujours connue comme étant parler du boulot, mais de manière un peu plus détendue, informelle et tout. Et parler autre chose que du boulot, je trouve que ça se passe plus à la pause repas. Par contre, faire une pause repas en visio, moi j'ai jamais tenté et ça me plairait pas.
Oui,
en
non.
Fait. Je suis sûr.
Donc quand je dis pas parler du boulot, c'est-à-dire pas en faire en fait. Pas que ça devienne, si on veut, un autre stand-up en fait. C'est ça le but. C'est pas qu'on se dise ah ben à ce point-là, on en parlera. C'est juste dans l'idée là, après c'est sûr qu'on apporte toujours un minimum le boulot, mais de manière plus détente, effectivement.
Nous, il faut qu'on mette en place des choses comme ça parce que je sens que sinon on va juste tourner la carte. En plus, on n'est pas beaucoup. Vous êtes plus nombreux, donc nous on est quatre, donc on fait vite le tour en fait des quatre. Et si on n'arrive pas à se souder tous les quatre. Ça va être compliqué.
Ouais, ça aide bien de s'organiser un petit point. Je sais que nous, le vendredi aussi, à 13h13, on essaie de se faire, selon qui est disponible, un petit Gartic Phone ou des petits jeux à distance comme ça, juste une ou deux parties sur la pause midi pour un peu se détendre et discuter un peu en même temps.
On fait un peu pareil. On a aussi un chat avec une discussion informelle. Des fois, les réunions stand-up ou autres peuvent dériver un peu sur des discussions informelles. Et on a aussi une chose. C'est on a une room de visioconférence également pour ces discussions-là où moi je suis en fait dedans toute la journée. Des gens peuvent joindre, partir. J'ai un collègue qui est très souvent là aussi et des fois on passe la journée comme ça, pas en visio, pas forcément la caméra activée, mais on peut prendre la parole à tout moment comme s'il était un peu à côté. Et c'est assez sympa également. Finalement, c'est un peu le principe du channel Slack informel, mais. Au niveau visioconférence et parole. Et c'est assez cool, voilà. C'est pas obligatoire, mais nous, c'est quelque chose qu'on fait, enfin que je fais également beaucoup, en tout cas.
Du coup, je vais faire une transition entre ce point et le point suivant. Moi, les rencontres me manquaient un petit peu. Du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais vendredi dernier, j'ai fait un live. Je vais en faire un encore vendredi et j'ai pris plaisir en fait à travailler à distance avec le chat, avec les personnes du chat qui sont passées pendant le live. Alors c'est complètement différent, mais du coup ça me permet de faire la transition parfaite avec le contenu, puisque plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'on avait beaucoup plus de contenu francophone qu'avant. Et est-ce que ça a un lien ou pas avec le Covid? Donc avant qu'on lance cette petite partie du sujet, parce qu'on va pas parler de veille pure et dure, puisqu'on a déjà abordé ça dans Radio DevOps numéro 4, donc je vous renvoie à Radio DevOps numéro 4, le lien est en description, et si vous êtes sur YouTube, il y a un petit i qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Allez, qui veut prendre la parole sur le contenu francophone?
Je peux commencer. Moi, j'ai l'impression que le contenu francophone explose en ce moment, alors je ne sais pas si c'est lié ou non au Covid, mais je vois de plus en plus de chaînes YouTube. Il y a bien sûr les conférences en ligne, de plus en plus de podcasts, des gens qui streament, un peu comme toi Christophe, qui font du live coding finalement, et dont ensuite les vidéos sont disponibles bien sûr sur les plateformes ensuite. Enfin voilà, j'ai l'impression que beaucoup de monde s'y met, c'est super intéressant, je trouve que c'est bien. Les raisons, je sais pas, peut-être que les gens ont aussi plus de temps, parce qu'ils sont plus souvent chez eux, ils ont peut-être moins de contacts, donc ils veulent plus partager finalement, c'est aussi une manière finalement de parler avec des gens quand on est chez soi. de faire ce genre d'événements en ligne ou de stream ou pour avoir finalement des contacts avec des personnes. Mais j'ai l'impression que ça explose beaucoup en ce moment, en effet.
Ouais, je pense que t'as dit un peu les raisons. Il y a plus de temps. Il y a un besoin de contact et d'échange qui n'est pas toujours possible en entreprise, ou des fois on a envie d'un peu élargir son cercle, ce qu'on faisait notamment avec les meet-up, etc., discuter avec des gens. Ça, c'est quelque chose qui a favorisé cette création de contenu. Il y a aussi, on va pas se cacher, je pense qu'il y a un effet de mode aussi. Hein, quand il y a eu X qui fait du contenu, il y a eu un effet boule de neige. Donc je pense que là-dessus, ça aide bien aussi. Et aussi pour les événements, en tout cas, c'est plus simple à organiser en fait à distance. Souvent, il y a pas ce gap entre guillemets. Moi, je prends l'exemple, on a organisé certains événements qu'on aurait eu plus de mal à organiser l'année dernière, en temps normal plutôt, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas à se préoccuper de certaines contraintes physiques comme les locaux. Prévoir, par exemple, si on prévoit une conférence sur 2 jours, c'est faut trouver des locaux. Des locaux sur Paris, ça coûte cher pour le coup, donc faut prévoir un modèle économique qui va te permettre d'un minimum les rembourser. Parce que très vite, c'est très cher. Faut gérer la logistique, donc l'accueil des gens, la gestion de la sécurité aussi, les ports de sortie, etc. Donc, mine de rien, c'est très compliqué, contrairement à ce qu'on pense, d'organiser un événement physique. Alors qu'à distance, c'est pas non plus en un claquement de doigts, mais ça enlève, je trouve, une grosse contrainte financière, entre guillemets, et organisationnelle, qui est beaucoup plus simple à gérer. Et ça, ça a été un terreau qui était fertile pour... l'ensemble de ces facteurs, pour moi, ça a donné un terreau très factile, propice à la création de contenu et à l'explosion de contenu.
Je pense qu'il y a aussi tous les gens qui étaient, dont c'est le métier, hein, les développeurs avocats, etc., qui faisaient un peu le tour des conférences. Pour eux, c'est un peu compliqué, du coup, ils sont obligés de se rabattre sur du contenu en ligne. Pour le coup, c'est plutôt bien, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis... je pense qu'il y a aussi l'effet d'entraînement dû à l'audience, parce que mine de rien, comme l'audience, elle est captive de chez elle, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Enfin, moi, je suis célibataire depuis l'année dernière, je vis tout seul dans mon appartement, mais mes loisirs, c'est le cinéma et le jeu de société. Donc le cinéma, les cinémas sont fermés. Le jeu de société, on va éviter parce qu'on échange plein de choses. Donc il me reste quoi finalement à part bosser? Et pas grand chose. Donc du coup, je passe mon temps à regarder du contenu ou à en produire. Donc je sais pas si pour les autres c'est pareil, voilà. Le constat est là. C'est il y a une audience qui est là et qui certainement regarde ces contenus-là qu'on produit. Donc c'est une roue d'entraînement. Et je pense qu'il y a aussi une envie de partager parce que comme on est loin des gens qu'on est isolé, on a envie de partager, de partager quelque chose. Et c'est peut-être plus facile, comme je le disais justement dans l'épisode de Radio DevOps sur les conférences, je vous mettrai le lien aussi en description, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes comme moi qui sont introverties de partager justement en ligne plutôt qu'aller en conférence ou organiser des talks. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette envie de partager ?
Ouais, je pense que ça a joué. Après, moi, je sais pas si c'était de faire partie de ce podcast, si c'était forcément lié au Covid. Je pense pas, mais ça a pu, je pense, jouer un petit peu quand même. Voilà. Le fait peut-être justement de moins échanger au quotidien, au travail, ou voilà, je pense que ça a pu influencer, a donné plus envie de participer à ce genre d'animation, on va dire.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aimais bien partager également avant. J'organisais des meet-ups ou des choses comme ça. C'est vrai que là, on a peut-être plus de temps. Plus de temps aussi pour l'open source, ce qui peut être bien aussi. Mais en effet, je pense que les gens veulent partager parce qu'ils se sentent peut-être un peu seuls chez eux. Enfin, je me répète un peu par rapport à ce qu'on a dit avant. Mais c'est bien qu'il y ait cette volonté de partager dans l'informatique. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans les meet-ups. Dans les villes où j'habitais, c'est vraiment cette envie de partage de connaissances et de retour d'expérience qu'on a un peu perdu avec le Covid, et je suis content qu'il y ait d'autres formats qui apparaissent pour continuer sur ces sujets.
Ouais, un des autres avantages, je trouve que c'est que ça dépasse aussi en termes géographiques le fait de faire un peu du en ligne. J'ai l'impression que on touche plus de personnes, donc c'est sympa aussi, quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, j'avais dans l'idée de faire des meet-up physiques. Mais par contre, j'avais tout de suite dans l'idée, puisque comme j'ai la chaîne YouTube, que quand je ferais ça, je les enregistrerais pour les rediffuser sur YouTube, quoi qu'il arrive. Parce qu'en effet, c'est bien de faire des meet-up physiques et de rencontrer les gens et de partager avec eux. Mais finalement, on ne touche qu'une salle. Et je me dis, c'est dommage, il y a tellement de gens qu'on pourrait aider avec nos contenus, nos présentations. Et c'est dommage de les garder juste pour une vingtaine ou une cinquantaine de personnes. Enfin, je dis une vingtaine de personnes parce que moi, je ne suis pas à Paris. Hein. Donc à Paris, je sais qu'on peut avoir des meet-up de 100, 200 personnes. Mais voilà. On va aller tout doucement vers la fin, justement, de notre podcast, où on va parler de, finalement, comment est-ce qu'on vend de la prestation tech ou autre avec le Covid. Et je ne sais pas si vous pouvez en parler. Moi, j'ai ma petite idée, donc je finirai et je clôturerai par ça. Qui veut prendre la parole sur le commercial et la vente?
Alors, très rapidement, moi, je ne fais pas de vente. Mais je sais qu'on a quelques sales dans l'entreprise et il faisait déjà bien sûr beaucoup de réunions finalement à distance parce qu'on est distribué un peu partout en Europe. Mais maintenant c'est 100% des réunions comme ça, donc je pense que ça a aussi un peu changé les moyens de communiquer de leur côté, peut-être plus d'outillage ou des choses comme ça, mais oui, je pense que ça va quand même changer des choses sur la façon de parler aux clients parce que là c'est les réunions physiques. Même si le client est dans le bâtiment d'à côté, bah, c'est pas possible. Et je sais qu'il y avait des clients qu'on rencontrait régulièrement. On les rencontre plus. Et oui, ça change un peu les choses. Ça change peut-être un peu la relation. Mais finalement, ça se passe plutôt bien quand c'est bien organisé, je pense. Et je dirais même au contraire. Maintenant, ça permet à plus de gens de peut-être participer à des meetings sales où des personnes peut-être n'avaient pas accès avant à ces meetings. Où là maintenant, vu que c'est à distance, c'est plus simple finalement de rejoindre une réunion sales si on a l'envie qu'une réunion en présentiel où on n'était pas forcément invité.
Après, moi c'est pareil, je fais pas vraiment de vente, j'ai fait un peu des fois d'avant-vente plutôt. Mais pour le coup, en général, c'est moi de ce que je vois, c'est plutôt bien accepté que ce soit les réunions plus pour faire un point sur la situation des clients, etc. C'est quelque chose qui passe plutôt bien, point de vue commercial, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros soucis là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des clients qui sont un peu plus qui préféraient se voir en physique, mais je pense que la plupart qu'on soit aussi ont assez de recul pour comprendre que la situation ne s'y prête pas et qu'on peut très bien aujourd'hui faire les choses à distance. Donc, honnêtement, sur cette partie-là, j'ai pas eu trop de gros soucis. Au contraire, ça a facilité beaucoup de choses, ne serait-ce que pour trouver des horaires ou des créneaux, etc. C'est beaucoup plus simple, on n'a pas de changement de bâtiment, on se dit « attends, ça a tant de temps pour y aller, etc. » Ce qui n'est pas forcément facile, pour le coup. Donc c'était même des fois facilitateur de ce point de vue-là. Quoi.
Ouais, moi aussi je fais un peu d'avant-vente de temps en temps, mais là j'en ai pas fait récemment. Et bah, je me sens coupable, parce que c'est vrai que j'ai pas trop pensé à mes collègues vendeurs là pour savoir comment ça se passait pour eux. C'est probablement plus compliqué, mais bon, manifestement il y a toujours des affaires qui ont l'air de rentrer, donc je pense qu'ils s'en sortent.
Moi, je sens quand même qu'il y a un besoin tech qui ne s'est pas arrêté. En fait, avec le premier confinement, il y a eu, en effet, comme l'avait dit Damir, plein de gens qui se sont retrouvés en fin de période d'essai. Mais en fait, j'ai l'impression que la tech ne s'est pas arrêtée. Ça me paraît évident, moi, qu'on ne se soit pas arrêté. Pour le coup, moi, avant, j'aimais bien, même si je travaille en remote, j'aimais bien faire mon deuxième ou mon troisième rendez-vous physiquement chez mon client, mon futur client, j'entends. Et là, du coup, je le fais plus. En effet, c'est que à distance et ça manque un petit peu de pas les rencontrer vraiment. Là, le dernier client que j'ai, on s'est rencontré après avoir conclu finalement la prestation, mais il y a un truc qui manque un petit peu, c'est vrai, mais comme tu disais, ça se fait beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple finalement d'arriver à caler une heure de rendez-vous dans un agenda que de caler une demi-journée parce qu'on va voir le client parce qu'il est à 500 km ou 400 km de chez soi. C'est beaucoup plus facile. Donc bon, là-dessus c'est pas mal. Après, on peut plus trop manger avec eux. De toute façon, les restos sont fermés, donc on peut plus faire ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre participation à ce podcast, finalement, qui était assez long. Je pensais qu'on allait durer 45 minutes, mais non, on a presque atteint l'heure. Je vous remercie, et il est temps de rappeler à notre cher auditeur qui nous écoute qu'il peut s'abonner au podcast ou s'abonner à la chaîne YouTube, et surtout, s'il est sur YouTube, il faut qu'il active la cloche, parce que comme ça, il sera notifié des podcasts qu'on sortira, parce que on en sort toutes les deux semaines, c'est sûr, mais de temps en temps, j'en glisse un au milieu, et puis je glisse quelques petites vidéos qui vont sortir, et notamment, vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu, il y a deux semaines, trois semaines, oh, je sais plus quand je vais programmer cet épisode, mais il y a eu l'interview de Mathieu qui est sortie comme ça, de manière impromptue dans votre flux. On va passer au petit mot de la fin. Moi je vous remercie encore une fois tous les trois, et puis on va commencer par Damir, ton petit mot de la fin.
Mon petit mot de la fin, c'est comme on l'a vu, c'est pas facile pour tout le monde, peut-être pas facile pour vous, essayez de garder quand même du contact avec des gens, de participer, discuter sur des communautés, de venir sur le forum ou peut-être venir discuter avec nous dans le podcast, donc n'hésitez pas là-dessus, c'est aussi une bonne opportunité de croiser des gens un peu de tous horizons, de partout et d'ailleurs, donc c'est, je pense qu'il faut positiver là-dessus et faut arriver à le traduire quelque chose de bénéfique.
René, je t'en prie, vas-y, ton petit mot de la fin.
Ah, mon petit mot de la fin, premièrement, j'espère que l'épisode vous intéressera. Puis voilà, j'ai envie de dire aux personnes de s'accrocher, même si la situation c'est pas toujours rigolo. Moi, j'ai l'impression qu'on reste quand même privilégié dans nos milieux. Donc c'est toujours comme la loi de Murphy, il y a toujours pire bien ailleurs. Même si c'est pas facile, voilà, accrochez-vous, et puis on va peut-être arriver à sortir de cette situation à un moment, le plus tôt possible, j'espère.
Et Mathieu, je te laisse la parole.
Mon mot de la fin, je suis d'accord avec Damir et René, j'espère qu'on s'en sortira et que ça ira pour tout le monde, on va dire, parce que je sais que c'est pas simple pour beaucoup de gens, et comme l'a dit René, on est assez privilégié dans nos métiers. Par contre, tout ça développera vraiment le télétravail, et moi je suis vraiment assez curieux de voir l'impact du télétravail sur le long terme sur les gens, sur où est-ce qu'ils vont peut-être choisir d'habiter, est-ce qu'il y aura vraiment des changements un peu sociétaux grâce au télétravail, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes au niveau des loyers, au niveau de où les gens sont forcés à vivre aujourd'hui avec le travail, et je suis assez curieux de voir qu'est-ce que le télétravail va apporter sur la façon de vivre dans les gens, hors Covid, bien sûr, je parle, parce que là, c'est du télétravail imposé, mais je pense que le télétravail est là pour rester, et j'espère qu'au final, on aura du télétravail aussi bénéfique pour les employés dans le futur.
Eh bien, merci, et je vous dis à tous, à très bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.